La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Depuis une trentaine d'années, de nombreux travaux d'historiens sont venus explorer ce que l'on appelle désormais la première mondialisation. Et au-delà de l'écho ressenti avec la situation contemporaine, saisie comme une sorte d'accélération de cette globalisation qui désormais inquiète plus qu'elle ne fascine, il faut voir dans cette évolution historiographique les résultats bénéfiques de réflexions épistémologiques qui sont nées dans les années 70 sur la manière dont on écrit l'histoire. Alors évidemment, ces travaux ont beaucoup porté sur la découverte de l'Amérique, mais dans ce même moment, il y a d'autres régions du monde qu'il s'agit d'englober, de positionner tout simplement sur les cartes du monde, sur les globes. Et parmi ces régions, une importante à propos de laquelle on peut se demander à quel moment et comment on a découvert la Chine. Antonella Romano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, directrice d'études à l'École des études en sciences sociales et vous dirigez le Centre Alexandre Coiré d'Histoire des sciences et des techniques.
Oui.
Et vous publiez aux éditions Fayard, dans la collection L'épreuve de l'histoire, Impressions de Chine. Alors je posais cette question qui peut sembler bizarre à propos de la découverte de la Chine. Autant on parle de la découverte de l'Amérique, événement considérable, même si l'on sait depuis que des échanges ont existé bien avant que Christophe Colomb et son expédition y posent un premier pied. La Chine géographiquement, c'est relié à la terre ferme sur laquelle nous avons les pieds au bout de ce continent eurasien. Donc
oui.
La Chine a toujours été en contact et en relation encore plus que l'Amérique, d'une certaine façon,
oui,
avec l'Europe. Alors comment peut-on parler d'une découverte de la Chine sensiblement dans la même période que la découverte de l'Amérique?
Oui, évidemment, ça peut paraître totalement paradoxal et vous avez raison de le souligner. Si on essaie de se placer d'un point de vue historiographique, on pourrait répondre à votre question de deux manières. La première, c'est que on peut s'interroger peut-être à nouveau frais sur ce que c'est que l'acte de la découverte et peut-être qu'il y a un premier élément de réponse là très, très sommaire qui peut être apporté à votre question, c'est que la découverte à partir d'un certain moment, et peut-être précisément celui qui m'intéresse dans ce livre, c'est la mise en savoir qui est liée à un espace dont, en effet, on connaît l'existence, puisque, comme vous l'avez indiqué de manière tout à fait juste, il y a bien longtemps que les Européens, en tout cas cette partie extrême occidentale de l'Eurasie, a des contacts avec cette partie du monde. Pour autant, elle n'est pas nécessairement enregistrée dans la carte des savoirs, d'une manière générale. Et donc, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, précisément, toujours d'un point de vue historiographique, c'est que vous avez, à juste titre, évoqué les mutations profondes qui ont affecté l'historiographie et la manière d'écrire l'histoire. Il me semble que ce qui peut être intéressant aujourd'hui, en tirant le meilleur bénéfice possible de toutes ces expériences historiographiques, c'est de regarder les effets de connexion qu'a produit la découverte de l'Amérique, et du coup, à partir de cela, revisiter le dossier chinois à partir de l'analyse des processus européens de ce que j'ai appelé l'englobement du monde au XVIe siècle.
Englobement du monde, l'expression est très belle, elle vise à désigner la mise sur les maps mondes et sur ces globes de régions, littéralement. Vous disiez tout à l'heure enregistrer, c'est-à-dire
oui,
littéralement mettre une topographie,
oui,
et puis de façon plus imagée aussi s'intéresser à d'autres savoirs, pas seulement aux savoirs géographiques.
Absolument.
Mais les savoirs géographiques jouent un rôle déterminant, vont en Chine des savants pour essayer de parvenir à mettre sur la carte la Chine.
Alors on peut, oui, tout à fait. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous dites. La première, c'est que mettre en carte, qui est un processus complexe et qui implique des opérations de savoir de différentes natures, qui passent par la mesure, qui passent par l'observation notamment, ça implique aussi faire rentrer au-delà des cartes, dans la cartographie des savoirs, encore une fois, tous les éléments de connaissance qui sont liés à ce qu'est la prise de conscience de l'existence de ce territoire. Et c'est pourquoi la cartographie est à penser comme l'un des éléments, et pas du tout le seul et l'unique, à partir duquel se construisent de manière processuelle, conflictuelle, riche, etc. Mais c'est ce travail de connaissance.
Alors l'une des difficultés quand on écrit cette histoire depuis aujourd'hui, c'est qu'évidemment on a spontanément tendance à embarquer avec soi une forme de spécialisation des savoirs qui nous est familière, qui est celle qui existe aujourd'hui, alors qu'à l'époque, et ça vous le montrez très bien, les savoirs sont beaucoup plus intriqués les uns avec les autres et d'autre part sont aussi intriqués avec d'autres dimensions que sont les dimensions politiques, les dimensions religieuses, les dimensions économiques. C'est impossible de faire véritablement la part des choses. En tous les cas, on peut essayer analytiquement, mais il faut toujours avoir à l'esprit la manière dont ces différents éléments s'articulent.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. D'où le choix de travailler sur des figures, sur des individus, pour pouvoir saisir au plus près, aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisque ça veut dire au fond des opérations de zooming, alors qu'il s'agit de réfléchir à des processus dont le sens se construit à une autre échelle, qui serait l'échelle globale, justement.
Donc un jeu d'échelle permanent,
si vous utilisez
l'expression.
Oui, tout à fait, absolument. Je pense que c'est un des grands acquis de l'historiographie contemporaine que de nous avoir invités à réfléchir sur la manière dont les échelles d'observation permettent de faire émerger les processus de construction de savoir. Voilà. Et donc, ceci permet en particulier, dès lors qu'on réfléchit à la manière dont pouvait se faire avant l'histoire des sciences, par exemple, ceci permet de réfléchir à la manière dont, du coup, on ne peut pas partir de notre conception totalement disciplinarisée des savoirs, puisque il s'agit d'effectuer plusieurs types d'opérations en même temps, qui elles-mêmes s'inscrivent, comme vous le disiez à juste titre, dans des configurations politiques, religieuses, économiques, qui elles-mêmes conditionnent les modalités mêmes de cette production.
Alors très concrètement, la meilleure façon de faire, vous l'avez dit, c'est de prendre des figures, parce que ces figures, ces personnes incarnent en elles-mêmes, au fond, la multiplicité des raisons et des moyens.
Oui.
Lorsqu'elle décide de partir d'Europe pour gagner la Chine et y effectuer un certain nombre d'opérations. Et même chose s'agissant du retour des résultats.
Oui, tout à fait. Alors il s'avère que précisément dans la période qui nous intéresse, le voyage en Chine n'est pas quelque chose qui relève de logique spontanée, très rarement en tout cas, mais qui s'inscrit en effet dans des projets. L'un de ces projets, celui qui a servi de fil conducteur mais qui n'est pas le seul à mon sens au cœur du livre, c'est le projet missionnaire. Ce projet missionnaire, parce que il s'agissait pour moi d'une part de réfléchir au type d'acteurs qui ont pu matériellement faire ce chemin et le chemin de retour, puisque s'agissant de réfléchir à la production des savoirs, il faut bien essayer de localiser les différents segments des processus de construction de savoir, et il y a un effet de retour en Europe où les choses s'élaborent en fonction d'un horizon européen. Du reste, et ça, évidemment, c'est un élément sur lequel on peut discuter. Et donc, dans les dispositifs de ce qu'on appelle la première modernité, le XVIe siècle, au moment justement où les empires, où les monarchies ibériques se lancent dans l'exploration des mondes et du nouveau monde, eh bien, les missionnaires jouent un rôle tout à fait particulier. Loin de moi l'idée qu'ils soient les seuls, mais les raisons pour lesquelles on peut avoir envie de travailler sur eux sont des raisons qui, à mon sens, nous permettent de comprendre l'intrication des savoirs, justement, et en particulier comment une démarche de type prosélyte, comme celle de l'Église catholique,
et en particulier des jésuites,
mais pas que, permet de chercher des phénomènes de production de savoir là où, il y a 30 ans encore, on ne les aurait pas nécessairement chercher, interroger. Voilà, ils sont embusqués dans une démarche complexe, mais en même temps, ils nourrissent, et en sens inverse, ils reconfigurent le sens même de cette démarche.
Alors, ce qui est très complexe, c'est que, évidemment, il y a des tensions, des conflits entre ces personnes, entre les pouvoirs qu'ils représentent, entre le centre et des décisions en Europe et cette extrême marge dans laquelle ils vont se trouver géographiquement, mais aussi politiquement. Il y a des tensions entre les empires, entre, vous parliez des monarchies ibériques, mais enfin, il y a les Espagnols et il y a les Portugais, ce sont deux choses différentes. Et puis, à la fin, les Français arrivent, même en Chine. Donc, il y a ces pouvoirs monarchiques et puis il y a le pouvoir de l'Église. Il y a Rome qui joue évidemment aussi un rôle extraordinairement important, Antonella Romano.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que ce qui est intéressant d'un point de vue historiographique, hein, si on essaie de revenir aussi à une réflexion de ce type-là, c'est que on a longtemps été pris par la difficulté à aborder ces questions de production des savoirs à cause de notre manière de projeter sur le passé des divisions disciplinaires qui n'étaient pas nécessairement appropriées. Puis, il y a l'autre effet, l'autre biais historiographique qui consistait à regarder l'histoire impériale d'un côté, avec des spécialisations. Alors, on travaille sur les Espagnols et donc les Amériques. On travaille sur l'Empire portugais. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'Empire portugais, il est très vite étendu aux différentes parties du monde.
Ça veut dire que la division du travail scientifique en sciences sociales a été décidée, au fond, par un vieux traité
Tordesillas.
Voilà.
Oui, d'une certaine manière. En tout cas, il est clair que pour les sciences sociales en général, je pense, et pour l'histoire en particulier, les effets de nos manières de construire nos objets ont eu, évidemment, des conséquences considérables sur notre manière de comprendre ces choses-là. Et donc, travailler sur les Portugais, c'était travailler non précisément pas sur les Espagnols. Travailler sur l'Église et l'histoire missionnaire, c'était surtout ne pas travailler sur l'histoire impériale, etc., etc. Alors, le défi, c'est un peu d'essayer de remettre tout ça ensemble pour, justement, rendre à ce moment et au processus que ce moment produit, toute leur complexité.
Il y a une autre chose qui est frappante quand on observe le regard que vous portez sur ce moment de découverte, entre guillemets, de la Chine, d'englobement du monde, c'est au fond la manière dont, là encore, marche main dans la main à travers ces figures, la religion et la science.
Oui.
On a, nous, une conception de séparation radicale.
Surtout en France,
de ces deux domaines. Oui. Or là, on voit des missionnaires à la fois être en terre de conquête spirituelle et en même temps, pour le faire, porter avec eux les dernières découvertes scientifiques.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant en effet, c'est que on a longtemps considéré que ce qui relevait de la sphère du religieux, et donc plutôt en termes de production de savoir de la superstition, c'était quelque chose qui était établi, il y avait des frontières claires, etc. Lorsque ces missionnaires arrivent en Chine, d'abord ils découvrent un empire qui est extraordinairement sophistiqué. Alors ils le savaient vaguement, mais tout à coup, cette sophistication de l'État, des modalités de production des savoirs, du rapport des élites au pouvoir, etc., devient pour eux une condition de la compréhension de ce monde-là. Et tout à coup, ils se retrouvent face à des interlocuteurs. Alors d'abord, il faut les identifier, ces interlocuteurs. Ça veut dire qu'il y a un investissement dans les savoirs linguistiques qui est tout à fait considérable et qui sont peut-être préalables à la production cartographique, ou en tout cas qui les accompagne fortement.
Linguistique aussi, on imagine, ethnographique, anthropologique.
Absolument. Et c'est là que, du coup, toutes les frontières qu'on croyait très claires, elles se brouillent, puisque la question de l'observation du ciel, par exemple, et donc qui en Europe est en train, au même moment, hein, de manière tout à fait intéressante, et c'est pas seulement du côté de chez les autres que c'est confus, mais aussi en Europe, au moment où en Europe est en train d'émerger un corps de professionnels que sont les astronomes, avec des protocoles d'observation du ciel qui sont totalement en rupture avec d'autres, avec les manières antérieures de procéder en Europe toujours, eh bien, quand ils arrivent en Chine, ils se rendent compte qu'il y a des interlocuteurs qui leur demandent de mettre leur expertise sur l'observation du ciel au service d'une réflexion sur ce qui est en train de se passer en Chine. Voilà. Sauf que, et ça n'est pas un sauf que négatif, c'est simplement un constat, les enjeux anthropologiques de l'observation du ciel dans la Chine des Ming ne sont pas les mêmes qu'en Europe, puisque l'empereur est le représentant des lois du ciel, et que donc travailler à l'astronomie en Chine, ça devient aussi travailler au service de l'Empire. Et en fonction de divisions qui ne sont pas celles que l'Europe est en train d'établir entre, par exemple, astrologie et astronomie. Cette frontière-là, qui pour nous semble très claire, eh bien, elle est mise à l'épreuve du terrain chinois, terrain entendu là dans toute sa complexité.
Au fond, on peut dire que ce sont des ethno-savoirs qui sont découverts.
On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, évidemment, pour... En tout cas...
De façon un peu anachronique, parce
voilà.
que...
Voilà, c'est pour ça que je mettais une légère réserve.
Ils ne font pas le même travail que fera Audry Court plus tard, mais il y a quelque chose quand même...
Il y a quelque chose qui est, et c'est ça que je trouvais intéressant, puisque au fond, la réflexion que porte ce livre est aussi une réflexion sur l'Europe, c'est que du coup, cette confrontation à des frontières mouvantes entre des domaines qui sont en train de se consolider en Europe rejoue sur la manière dont en Europe on est amené à penser aussi tout cela. Du coup, la difficulté pour ces missionnaires, c'est celle d'arriver à négocier une position en Chine et une position en Europe sur des bases épistémologiques, on va dire, qui sont assez opposées dans les deux cas.
Il y a une chose qu'on n'a pas, je crois, soulignée encore depuis le début. J'insistais sur le fait que, a priori, la Chine, l'Europe, on pourrait même dire que c'est le même continent. On peut y aller à pied, en tout cas, c'est pas l'Amérique. Mais il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que cette découverte, entre guillemets, de la Chine se fait par la mer. Et c'est ça la rupture aussi par rapport aux expériences antérieures. Et Antonella Romano.
Alors, oui, c'est une rupture par rapport aux expériences antérieures, dans la mesure où ce sont ces circulations distinctes qui ont des effets de savoir. Et c'est pourquoi l'idée d'englobement du monde ici revient. Puisque les voies maritimes, ce qu'elles permettent de penser autrement, c'est que, précisément, à un moment donné, les Portugais arrivent en Chine en suivant la route du développement de l'État de
par l'océan Indien.
Par l'océan Indien, voilà. Mais que les Espagnols, qui eux-mêmes ont découvert l'Amérique, qui sont en train de s'installer sur le continent, sur une partie du continent américain, ils traversent.
Ils continuent, c'est par le Pacifique qu'ils arrivent.
Voilà, ils arrivent par le Pacifique. Du coup, évidemment, ça permet, alors à la fois très concrètement, de situer beaucoup plus précisément la Chine et au fond de la déployer. Le territoire chinois se déploie sous le coup de ce processus d'englobement, ça c'est quelque chose d'intéressant, évidemment, et ça met, ou ça active de manière différente, la dimension conflictuelle de ces processus. Puisque, comme vous le disiez, en effet, on a là des agendas politiques qui sont évidemment très différents.
Alors, qui sont ces figures dont vous parliez tout à l'heure, auxquelles vous vous êtes attaché? Par exemple, vous pouvez nous en présenter une ou deux, nous dire qui étaient ces hommes et ce qu'ils ont fait concrètement, comment ils ont procédé?
Alors, le livre travaille sur, embrasse une période qui est en gros située entre le milieu du XVIe siècle et les années 1680. Et en effet, il s'arrête en 1680 parce que la configuration géopolitique de l'Europe et ses effets impériaux changent la donne, sans que pour autant les processus au cœur de l'analyse soient profondément modifiés. C'est que simplement, il y a des effets de complexification qui s'ajoutent. Mais le choix de cette période-là, ça permet d'une part de montrer une première chose, ou en tout cas de réfléchir à une première chose. J'hésite toujours à dire montrer parce qu'il y a tellement de collègues éminents qui ont travaillé avant moi sur toutes ces questions que, évidemment, il faut aussi les lire. Il faut lire les sources, mais il faut aussi les lire. Voilà. Donc ça permet de réfléchir au fait que face à un legs historiographique qui serait que la Chine, c'est principalement l'effet de l'installation des jésuites et donc d'un agenda jésuite de conquête spirituelle, en fait, c'est un petit peu plus riche que ça, et que, y compris la monarchie espagnole et la monarchie portugaise, ont envoyé, avant que les jésuites eux-mêmes s'y installent, des missionnaires. Donc, il y a une série de figures, dont certaines, de manière tout à fait intéressante, n'y sont pas arrivées, mais qui ont un statut d'observateur tout à fait intéressant, à partir duquel ils vont produire ses impressions de Chine, c'est-à-dire écrire sur. Hein. Et c'est pourquoi, aux deux extrémités du livre, il y a des personnages qui sont moins connus, je dirais, que les Matteo Ricci ou Martino Martini, auxquels on s'attend. Alors, je pense aux deux extrémités du livre, donc à González de Mendoza, dans les années 1580, qui publie le premier livre consacré à la Chine. Alors, si mes collègues portugais m'entendaient, ils me diraient « Mais non, c'est pas vrai. » Avant lui, il y a un Gaspar da Cruz, dans les années 1570, ce qui est tout à fait juste. Voilà. Et puis, à l'autre extrémité, il y a l'évêque de Puebla, Juan de Palafox. Puebla, en Nouvelle-Espagne, donc au Mexique actuellement, qui lui aussi consacre un traité à la Chine. Et ça, c'est un premier élément qui est tout à fait intéressant.
On comprend mieux l'englobement.
Voilà, absolument.
Ouais, parce que là, on a fait le tour du monde.
Voilà, on a fait le tour du monde. Voilà. Et donc, on a, parmi ces acteurs, ce qui m'intéressait, c'était aussi de distinguer ceux qui étaient installés dans des positions géopolitiques, intellectuelles, culturelles, qui leur permettaient de se sentir légitime pour écrire sur. Voilà. Et puis, il y a aussi, et c'est le cœur du livre, assurément, ceux qui s'y sont installés avec tout ce que ça a pu poser comme problème et tout ce que ça a eu d'instable comme négociation, là, pour le coup, et qui sont les jésuites. Et donc, voilà, j'ai pu revenir sur un personnage comme Matteo Ricci, qui est extraordinairement connu. Voilà, simplement, ce qui m'a intéressé avec ce personnage, dont je rappelle brièvement qu'il a été, au fond, le protagoniste d'une installation permanente et d'une manière de construire le dialogue avec le monde chinois, qui n'avait pas eu de précédent. Et Matteo Ricci, de ce fait, a commencé à faire des cartes, du reste, et puis il a fait aussi bien d'autres choses. À partir des cartes, il a aussi, et grâce à la formation linguistique acquise, été le principal artisan des premières traductions des textes scientifiques, entre guillemets, européens, en Chine, par exemple, Euclide, qui est évidemment pour nous la référence quand on parle de science à l'âge moderne.
En commençant l'émission, Antonella Romano, je parlais de cet ensemble de travaux autour de la première mondialisation, cette manière d'écrire l'histoire du monde qui marque l'évolution de la discipline historique depuis maintenant une trentaine d'années. Oui. Évidemment, beaucoup de ces travaux concernent la colonisation par l'Europe de territoires gigantesques en Amérique. Et un certain nombre de recherches récentes ont essayé d'écrire l'histoire du point de vue des colonisés. Je pense au livre de Romain Bertrand, par exemple. Et là, la question pour la Chine se pose différemment. Jamais l'Europe n'a conquis la Chine ou n'a colonisé la Chine. Néanmoins, comment les Chinois ont-ils observé l'arrivée de ces explorateurs européens ou de ces missionnaires européens ? Quelle histoire vue de l'autre côté on peut écrire s'agissant de la Chine ?
Alors, c'est une question qui est extrêmement pertinente, ça va de soi. C'est une question sur laquelle mes collègues sinologues travaillent beaucoup. Et je ne suis sans doute pas la plus experte pour le faire. Hein.
Ce n'est pas le point de vue qui a été le vôtre.
Ce n'est pas le point de vue du livre,
mais
absolument. Mais il y a une réflexion, évidemment. Je pense qu'il faut réfléchir à deux choses. La première, qui est que la Chine est un empire immense, le plus peuplé du monde dans cette période en tout cas, et que l'impact, enfin, ou la possibilité d'enregistrement par les Chinois de ces phénomènes qui pour nous sont fondamentaux, elle doit être totalement relativisée.
Ça, quasi c'est... marginal.
Oui, quasi marginal, sauf que, évidemment, les principaux interlocuteurs de ces jésuites ont été les élites politiques et en particulier la cour et l'empereur.
Et les savants.
Et alors, les savants aussi, bien sûr. Et donc, on pourrait répondre du point de vue romain en disant, il y a eu des conversions. et le christianisme en Chine est devenu une réalité, minoritaire certes, mais voilà. Du point de vue scientifique, évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes. À la fois, les Chinois eux-mêmes ont travaillé avec des astronomes d'origine musulmane depuis bien avant l'arrivée des Européens. Et en soi, ça n'est pas nécessairement un problème pour eux. Est-ce que ça a bouleversé l'épistémologie chinoise ? Non. Enfin, on peut, de manière assez brutale, vous répondre. La cartographie chinoise n'a pas été affectée jusqu'au XIXe siècle par la présence de ces personnages.
Merci beaucoup, Antonella Romano.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, Impression de Chine, l'Europe et l'englobement du monde, 16e, 17e siècle. Il paraît aux éditions Fayard, dans la collection L'épreuve de l'histoire, qui est dirigée par Antoine Lilti. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, sur le site de France Culture, une page sur laquelle vous pouvez réécouter Ad Vitam Aeternam, désormais cette émission, et vous pouvez également, et je vous y encourage vivement, vous abonner au podcast de la suite dans les idées, meilleur moyen d'être certain de ne pas rater un épisode.
Merci.
C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission. Catherine Denet à la technique aujourd'hui. Emmanuel Arming à la réalisation. Jean-Christophe Francis. Dans quelques instants, c'est Étienne Klein et la conversation scientifique que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture.